les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Philosophe et islamologue, grand spécialiste de l'Iran et du monde chiite, Christian Jambé fut, dans sa jeunesse, l'un des dirigeants de la gauche prolétarienne, l'organisation maoïste, née au lendemain de mai 68 et autodissoute en 1973. En 1997, dans le premier des 5 entretiens qu'il accordait à Michel Cazenave pour À Voix Nue, Christian Jambé revenait sur cet engagement politique. Sans manquer d'en souligner les contradictions, mais sans rien en renier, Christian Jambé livrait une analyse historique et politique de ce qui fut l'origine de cet engagement, du sens des luttes et des actions d'alors, pour lui et ses camarades. Une histoire brève, d'à peine 5 années après De Gaulle, qui s'achevait selon lui sur le triomphe d'un progressisme mou, à l'exact opposé de l'idéal auquel ils aspiraient. À Voix Nue, Christian Jambé, au micro de Michel Cazenave. Première partie diffusée le 10 février 1997.
Christian Jambé, lorsqu'on regarde votre parcours, et d'ailleurs en même temps l'ensemble de votre œuvre, on a l'impression de quelque chose, je dirais, à première vue d'assez étrange. Puisqu'on vous voit commencer dans ce qu'il est convenu d'appeler les mouvements d'extrême-gauche, particulièrement dans le maoïsme. Vous avez participé de ce point de vue-là à 1968, puis à ses suites et particulièrement à tout ce qui a tourné autour de la cause du peuple. Et puis aujourd'hui, on vous retrouve enseignant de philosophie, ça semble assez normal, mais en même temps spécialiste des mouvements spirituels islamiques et particulièrement des mouvements spirituels islamiques de la Perse néoplatonicienne. Alors évidemment, pour quelqu'un qui n'est pas prévenu, cela peut paraître un petit peu étrange. Et si vous le voulez bien, avec vous, j'aimerais que l'on refasse tout ce parcours, cette trajectoire, en essayant de comprendre quelles ont été vos évolutions et en même temps, éventuellement, bien entendu, quelle est la continuité profonde qui peut s'y marquer. Alors, si vous voulez bien, revenons justement à 1968, où se déclenche le mouvement que l'on sait, où vous êtes, si je me rappelle bien, dans la classe préparatoire à l'école normale supérieure, au lycée Louis-le-Grand, et où, d'emblée, vous participez à ces mouvements, et vous participez à ces mouvements dans ce qu'il est convenu d'appeler l'une de ces branches les plus extrêmes, c'est-à-dire ce que, pour aller vite, on appellera le parti maoïste français.
Puisqu'il faut évoquer la gauche prolétarienne, dont le souvenir revient périodiquement sous une forme plus ou moins avariée, il faut bien le dire, je crois que ce qui serait le plus marquant pour moi aujourd'hui, ce serait de rappeler le sens de l'engagement qui fut le mien, mais aussi et d'abord celui de milliers d'autres. Et ce que j'ai pu éprouver ne se distingue pas essentiellement dans les années 70 de ce qu'ont dû éprouver tous ceux qui se sont réclamés du maoïsme français. Le maoïsme, qu'est-ce que ça a signifié? Ça a signifié que l'histoire pouvait atteindre un point d'absolu. C'est-à-dire que par l'action politique, on pouvait rompre radicalement l'ordre du monde, et cela au nom d'un idéal du monde, si ça n'est pas d'un monde idéal, tel que dans ce monde idéal disparussent les formes les plus extrêmes de l'oppression. C'est ça, en dernière instance, le noyau dur du maoïsme français. Alors, le reste, ce sont des aspects doctrinaux sur lesquels il serait d'ailleurs intéressant de revenir. Pourquoi avoir été prendre référence chez Mao Tse-Tung plutôt que dans le reste de la tradition marxiste? Si vous voulez bien, j'en dirai quelques mots, mais d'abord, le point d'absolu lui-même. 68, au fond, n'a marqué qu'une étape à laquelle, pour ma part, j'ai peu adhéré. Je veux dire, j'ai peu adhéré aux formes qui passent aujourd'hui pour celles qui ont été les plus vivantes. La libération des mœurs, le changement des rapports entre les hommes et les femmes, l'abolition des contraintes, enfin, toutes ces choses-là qui ont fait l'aspect ludique de mai 68, finalement, est passé très vite au second plan. C'est à partir de 69, à mes yeux, que les choses sérieuses commencent. Les choses sérieuses, c'était de penser et d'essayer de dire qu'il y avait en France un sujet politique qu'on appelait à ce moment-là les ouvriers ou deux termes qu'on n'utilise plus aujourd'hui. Enfin, personne ne parle du peuple. Le peuple, comme tel, qui put prendre en main son destin et en faire précisément un destin, c'est-à-dire s'arracher aux conditions dans lesquelles placer le mode de vie d'usine, le mode de vie de l'habitat urbain, le mode de vie des campagnes, la société moderne, sous ses formes, les formes les plus avancées du marché. S'arracher aux normes du marché. Et par là même, tenter de réaliser en Occident ce qui était en train de se manifester en Chine, c'est-à-dire une révolution qui affecte l'homme dans ce qu'il avait de plus profond. Faire que les intellectuels ne soient plus coupés des ouvriers, faire que le mode de vie même de l'intellectuel fût dans son fond entièrement bouleversé, et que par conséquent, un nouveau type de création vit le jour dans le monde. À travers ça, ce qu'on peut appeler donc l'idéal d'un monde autre que le monde tel qu'il est, on voit bien que ce qui pouvait m'attirer, c'était ce qu'on pourrait appeler une politique du sublime. Politique du sublime, c'est-à-dire une politique qui se guide sur ce qu'il y a toujours de limite. Et on peut entendre par limite un maximum. Pour prendre un exemple précis, les maoïstes français considéraient que dans l'usine, ce qui faisait l'oppression, ce n'était pas simplement l'exploitation de la force de travail, bien que ce fût évidemment extrêmement important, le fait que la plus-value fût extorquée aux producteurs, mais les conditions mêmes de la production. Les petits chefs, les contremaîtres, l'atelier, le rapport aux instruments du pouvoir et du savoir. Et donc, quelque chose là pouvait être atteint, ou devait être atteint, et c'était le souhait, le vœu des ouvriers eux-mêmes, en tout cas de ceux pour qui cette oppression était insupportable. Et donc, le maoïsme, ça a été une expérience d'une politique extrême, au sens où c'était une politique qui recherchait ce qu'il y avait de plus intense, encore une fois, presque au sens où Kant parle de l'idée, c'est pas lorsque Kant parle de l'idée, il en parle ainsi, une limite, un point de maximum, un maximum de liberté. Si la liberté est une idée, la liberté est un maximum. Se considérer soi-même comme cause libre des événements qui suivent de sa propre action. Alors, c'est cela même qui s'est prouvé, me semble-t-il, en Chine, et c'est pour ça qu'il y a eu modèle chinois.
Mais alors, de ce point de vue-là, évidemment, la question qu'on a envie de vous poser, c'est dans quelle mesure ce que vous nous racontez, en quelque sorte, en ce moment-là, et dont je sais qu'en effet, ça a été partagé par beaucoup de gens autour de vous, est-ce que c'était réellement du marxisme ? Et je veux dire, s'il n'y avait pas quelque chose qui est quand même, je ne dirais pas étranger ou opposé au marxisme, mais qui est bien au-delà du marxisme, qui relève quasiment d'une espèce de pari métaphysique.
Ce qui relevait du marxisme, c'était tout l'appareillage conceptuel de la lutte des classes, d'une révolution sans aucune espèce de compromis avec le régime parlementaire, d'une opposition du peuple à ses oppresseurs, etc. Autrement dit, le vocabulaire. Ce qui échappait au marxisme, ou en tout cas ce qui faisait qu'on pensait vivre une nouvelle étape du marxisme qui en réalité renversait très largement l'expérience soviétique et la dépassait de très loin, c'est que ça ne visait pas ni à fonder un parti, ni à fonder un État, et jamais la gauche prolétarienne ne s'est présentée comme un véritable parti, au sens où le Parti communiste français est un parti, où les partis de la Troisième Internationale avaient été des partis, ou bien où les groupuscules trotskistes ne rêvaient que de se constituer comme partis, ça se présentait comme un ferment, un principe, on pourrait dire, d'agitation permanente et de révélation permanente. Il s'agissait de révéler à soi-même une expérience qui existait depuis la nuit des temps et qui n'avait pas attendu le capitalisme pour exister et qui était l'expérience de la révolte. Non pas une révolte aveugle, parce qu'il ne suffit pas de dire non pour être un révolté, on peut être aussi bien un barbare en disant non, mais une révolte qui visait à créer une figure de l'homme hors de sa propre finitude. Alors en ce sens, oui, je suis d'accord avec vous, c'est quelque chose comme une expérience métaphysique, parce que tout le discours philosophique qui accompagne le marché mondial, tel qu'il était en train de naître et de se constituer tel qu'on le voit aujourd'hui, alors devenir un véritable lieu commun, c'est que l'homme est un être fini. Et je crois que ce qu'il y avait de vivant, et ce qui me permet aujourd'hui d'en reparler sans nostalgie et aussi sans abus du vocabulaire politique, ce qu'il y avait de vivant dans le maoïsme, c'était cette postulation que l'homme n'est pas un être atteint en lui-même par la finitude. C'est-à-dire que la finitude n'est pas le dernier mot de l'homme.
Oui, mais alors d'une certaine manière, je vais changer un tout petit peu de vocabulaire, mais je pense que vous allez vite comprendre ce que je veux dire. C'est qu'on a l'impression que votre discours là est un discours, je dirais, par rapport au mythe qui nous a fondé, nous, notre culture, c'est-à-dire le mythe de la chute et le péché originel, que ce dont vous rêviez, c'était quasiment, je dirais, d'un processus d'inversion de la chute. Comme si, justement parce que vous affirmiez que l'homme n'était pas fini, qu'il n'y avait de vie que celle qui tenait de l'impossible, comme si, en fin de compte, vous vouliez regagner le paradis. Bien entendu, je parle en langage symbolique.
Oui, un des plus intelligents interprètes de la Révolution française, d'ailleurs Joseph de Maistre, avait parfaitement vu à propos d'un événement alors incomparablement supérieur à tout ce qui a pu se passer en France en 68, mais qui d'une certaine manière est assez proche de ce qui se passait en Chine, c'est-à-dire la Révolution française qu'on peut comparer à la Révolution chinoise, de ce point de vue-là, disait que c'était le mal absolu, la Révolution c'était le mal absolu, précisément parce que ça tentait de prendre la place de la création divine au sein du plan providentiel. Alors il y a une forme d'intelligence chez Joseph de Maistre, précisément sur ce point-là, de considérer que la Révolution, c'est quelque chose qui crée une époque, qui façonne un monde radicalement neuf, où l'homme tente de se substituer, d'après lui de manière démoniaque, bien entendu, au véritable détenteur de la souveraineté. Et il avait parfaitement vu que ce qui était en question, c'était la question de la souveraineté. Et bien je pense qu'à notre échelle, et en tout cas pour les Chinois à la leur assurément, ce qui était en question, c'était cette question de la souveraineté et de la finitude de l'homme. Est-ce que l'homme peut être souverain, ou bien est-ce qu'il est l'instrument d'une providence qu'il dépasse, ou bien, à supposer même qu'il y ait une providence, est-ce que cette providence suppose des moments de tragédie profonde où il bouleverse radicalement tout ce qui est. C'est ça la question.
Mais alors justement, par rapport au moment où débute véritablement cette action, parce que le parti marxiste-léniniste français, il existait déjà avant 68. C'est le moment où c'est venu, je dirais, réellement au jour, où il a commencé à agir. Bon, au-delà de l'écume de 68, effectivement, je pense que le côté anarchiste, le côté trotskiste, même à certains égards, ou le côté, je dirais, libération de l'imagination, mais plutôt de l'imaginaire, n'était pas fait pour vous plaire spécialement. Ça, je m'en doute bien, en effet. C'est une période historique tout à fait précise, c'est-à-dire qu'en face de vous, c'est le général de que vous avez, qui lui-même fait appel au peuple et a une certaine conception du peuple et n'est pas, je dirais, un fanatique de la République parlementaire. Est-ce que ça a du sens à vos yeux ou pas?
Oui. Aujourd'hui, ça a du sens. Si l'on revient à la perception que nous avions du général de Gaulle, je pense qu'elle était filtrée par la représentation que donnait la Ve République sous la forme de ses gouvernements, de ses ordonnances, de ses décisions, on pourrait dire, administratives et politiques ordinaires. Autrement dit, de Gaulle est apparu non pas sous le versant de la grandeur, qui était la sienne, mais comme le représentant d'un État qui, derrière lui, avait une police, un patronat, des usines, des entreprises, tout un système d'obligations auxquelles il s'agissait de s'arracher. Ce qui fait qu'il y a un profond malentendu dont quelqu'un comme Clavel, par exemple, avait beaucoup parlé en son temps, touchant la figure de Gaulle. Parce que il fallait qu'il y eût la grandeur de Gaulle à la tête de l'État pour que l'État devint ce qu'il était pour nous, un ennemi important, un ennemi décisif. C'est-à-dire que la question de l'État fut posée en France, savoir est-ce qu'on doit s'arracher ou non à ses obligations. Mais d'un autre côté, De Gaulle avait été traîné en dérision par 68, et lorsque l'affrontement a lieu réellement entre le maoïsme français et ses adversaires, c'est-à-dire l'appareil d'État, De Gaulle a été vaincu, si on peut dire, par ses propres amis. C'est-à-dire qu'il a été congédié par le pompidolisme. Et ce que nous avons eu, nous, en face de nous, c'est le pompidolisme. C'est-à-dire une figure de la bourgeoisie comme on n'en avait plus fait depuis Louis-Philippe. Donc je pense que l'évaluation de la figure de De Gaulle a été comme mise en suspens. J'en prendrai un témoignage, c'est que lorsque Malraux a publié « Les chaînes qu'on abat », c'est un livre qui a circulé immédiatement parmi les maoïstes, en tout cas moi je sais que je l'ai lu immédiatement, et je l'ai lu avec ferveur, alors même que je ne pouvais pas douter une seconde de la position que pouvait prendre Malraux, et du mépris d'ailleurs très probable dans lequel il devait tenir toute ma génération et tous les gens que nous étions. Donc, il y a là quelque chose comme un décalage dans l'histoire qui s'est produit. Ce à quoi on s'est véritablement opposé, c'est à une dictature qui maintenant est devenue beaucoup plus douce et sous des formes, à mon avis, encore plus atroces, mais plus sournoises, qui était la dictature au jour le jour des grands appareils coercitifs. Ceux qui font que les hommes plient, sont, comme on dit aujourd'hui, délocalisés, déplacés, défaits, retirés d'eux-mêmes, etc. Alors ça n'avait rien à voir avec le De Gaulle de la résistance, ni avec le Malraux de l'espoir. Et pourtant, il s'est trouvé que tout a démarré lorsque De Gaulle a réussi à mettre sur pied un État qui tourne bien. C'est-à-dire dans une France riche, relativement prospère. Un signe, c'est qu'il était facile pour un maoïste de s'établir en usine pour cette simple raison, c'est qu'il y avait de l'embauche, il y avait de l'emploi, et tous les autres signes que l'on a attribués aux Trente Glorieuses. Donc, c'est dans une période de prospérité dont il avait été lui-même l'agent, De Gaulle, que quelque chose comme une révolte contre lui a pu naître. Et plus encore une fois que contre lui, c'est contre ses propres descendants, qui étaient précisément ceux qu'il avait mis à mort pour mieux lui succéder et faire de son héritage ce que l'on sait. C'est ça qui s'est passé.
Non, parce que c'est ça, justement, si vous voulez, que j'essaie de comprendre en même temps pour bien fixer ce qui est, je dirais, au-delà de la politique, ce qui relève vraiment de l'histoire, si on prend ce mot au sérieux. C'est le rapport de la position que vous nous avez expliquée, qui est celle, effectivement, de la, je dirais, du renouvellement d'un monde, en quelque sorte, par rapport à quelqu'un dont le geste fondateur était celui d'une révolte radicale, dont je pense quand même qu'il a fait preuve de ce qu'on pourrait appeler une imagination créatrice, vive le Québec libre, etc. Et même au moment de la reconnaissance de la Chine, puisqu'on savait qu'il y avait tout le monde contre lui, lorsqu'il a reconnu la Chine, et la Chine à laquelle vous référiez. Et de me dire, est-ce qu'il n'y a pas eu là quelque chose qui était de l'ordre d'une, éventuellement d'un rapport au-delà de l'histoire, alors même que dans la politique réelle, concrète, en effet, vous vous trouviez, et vous trouviez en face de ceux, vous disiez le patronat, ses lieutenants, etc., contre qui, en réalité, il s'est toujours battu. Et qui l'ont mis à mort.
Oui, alors le simple fait que nous ayons repris comme thème le thème dit de la nouvelle résistance, et que nous ayons une référence obsédante à la résistance, veut sans doute dire quelque chose, à ce point de vue. Moi, il me semble que maintenant, si on reprend les choses au point où elles en sont aujourd'hui, on a l'impression que, à la libération, au fond, De Gaulle étant celui qui fondait à nouveau la République sur les ruines de l'État vichysois, avait laissé en suspens une question qui était celle de l'ordre social. L'obsession de De Gaulle, ça a été l'État. L'État et le chef de l'État. Ce sont les titres même des chapitres qui finissent un des tomes des Mémoires d'espoir. Et ça, c'est ce qui ne nous satisfaisait plus, que l'on s'arrêta à la question de l'État. Et au contraire, ce qui a beaucoup séduit les Chinois dans la personne de De Gaulle, et notamment ce qui a séduit Mao Tse-tung, c'était qu'il eût rétabli l'État dans sa plus haute dignité et la France dans son indépendance et dans sa puissance. Donc d'un côté, De Gaulle était perçu par nos propres modèles, c'est-à-dire les Chinois, comme probablement l'homme occidental le plus important, non seulement parce qu'il les avait reconnus, mais parce qu'il donnait un modèle d'indépendance à suivre. Et Mao Tse-tung se reconnaissait en De Gaulle, comme à certains égards, Malraux s'est reconnu dans Mao Tse-tung. Et d'un autre côté, pour les maoïstes français, quelque chose échappait à l'État qu'avait fondé De Gaulle, et pour lequel il s'était battu encore après 1958, c'était la question de ce qu'on a appelé ensuite trivialement la société civile. Alors, pour nous, il n'était pas question de société civile, il était question d'un corps social dans lequel subsistait, quelle que fût la noblesse de l'État, son indépendance, sa révolte à l'égard de l'ordre américain, à l'égard de la politique de Yalta, etc., subsistait fondamentalement une opposition duelle entre deux forces qui s'opposaient, l'une résistante à l'autre, d'où la reprise du thème de la résistance. Mais cette fois-ci, non plus d'une résistance à l'égard d'un occupant étranger, mais de ce qui nous paraissait être une classe qui occupait en France une place qui ne lui était pas due, c'est-à-dire une classe exploitante. Et le fait que Clavel rêvait de ce que de Gaulle ait pu participer d'une manière ou d'une autre à l'élan des étudiants en 68. À mon avis, c'était un rêve absolument fumeux et impensable, parce que derrière cette révolte, ce que de Gaulle voyait, c'était tout simplement ce qui allait arriver, c'est-à-dire la récupération de la dite révolte par les forces politiques parlementaires, les partis, comme il disait, et derrière ces partis, la ruine de son propre héritage. Mais pour nous, ce qui était en question, essentiellement, c'était de viser dans cet État, si parfait qu'il fût, quelque chose dont l'État ne pouvait pas s'occuper, c'est-à-dire de révéler la fracture incessante qu'il y avait entre ceux qui subissent et ceux qui leur font subir.
Oui, mais justement, de ce point de vue-là, donc si je comprends bien, si je suis bien ce que vous avez dit, d'une certaine manière, ça rend les choses beaucoup plus claires à partir du moment du jour où De Gaulle est parti, c'est-à-dire où il se trouve, où c'est Pompidou. Vous avez fait allusion à Louis-Philippe, je crois qu'effectivement, enrichissez-vous de Guizot, moins peut-être par le travail et la vertu qu'un bon protestant a ajouté Guizot, c'est effectivement devant ça, du coup, que vous vous trouvez.
Oui, c'est-à-dire que le maoïsme, avec tout ce qu'il a essayé de promouvoir, alors on peut être concret, sabotage dans les ateliers, soulèvement, occupation, grève poussée jusqu'aux limites, le cas échéant, opération symbolique en vue de terroriser ceux qui d'ordinaire oppriment les masses, venger les accidents du travail, se battre dans les bidonvilles, se battre dans les foyers, se battre dans les banlieues, unir la jeunesse ouvrière, unir les immigrés, bref, tout cet ensemble de rêves ou de perspectives a trouvé face à lui, non pas la figure tutélaire de De Gaulle, mais une puissance qu'on a vue depuis triompher, et qui est la puissance pure et simple du capital libéral. On n'imaginait d'ailleurs pas à quel point l'organisation libérale, c'est-à-dire purement et simplement le déplacement libre, comme on dit, de la force de travail, allait triompher de par le monde. Et c'est précisément ça qui faisait pour nous l'objectif des révoltes. Qu'est-ce qui pouvait susciter plus la révolte que le fait que dans un atelier il n'y eut pas de mesures de sécurité suffisantes et que on trouva des accidents innommables, que nous considérions comme des crimes. Qu'est-ce qui faisait que les mineurs trouvaient la mort au fond des puits, etc., etc., etc. Autrement dit, on a criminalisé toute une série de choses qui passaient d'ordinaire pour normales. C'est cette criminalisation et donc la transformation en criminel, à nos yeux, de toute une partie des fonctions gestionnaires de la société, qui a fait scandale. Quand nos camarades ont pris Fauchon, sont entrés dans le magasin de luxe pour prendre un certain nombre d'objets de luxe, de nourriture de luxe, pour aller les distribuer dans des foyers immigrés, ce qu'on voulait dire par là, c'était que dans ce type d'inégalité, il y avait quelque chose de profondément criminel. Donc, une vision morale du monde. Et cette vision morale du monde, loin d'avoir tout son avenir devant elle, elle était au contraire à son crépuscule. Et puisque nous parlons d'une période qui va de 1969 à 1974, moi, ce que j'en remarque surtout, c'est la brièveté. Et le fait qu'au total, elle est aboutie à quelque chose qu'elle ne voulait pas, qu'elle ne souhaitait pas, c'est-à-dire un retour progressif à la politique parlementaire et le triomphe de ce que nos amis Jean-Claude Milner appelle le progressisme, c'est-à-dire une forme de conciliation entre d'un côté de vagues espérances de libération de l'humanité et de l'autre côté un asservissement constant et permanent aux lois du marché telles qu'elles existent. Et c'est au fond un entre-deux, entre De Gaulle et ce progressisme mou qui a fini par l'emporter, que l'on a pu appeler le maoïsme. Et c'est parce que c'est une période qui scintille comme ça à l'intérieur de notre histoire récente, sans d'ailleurs qu'on puisse en écrire l'histoire, c'est pour cela qu'on se la rappelle périodiquement. Parce que son seul message, c'était que le progressisme mou, en tous les cas, ne valait rien comme politique, parce qu'il était à son tour une figure de la finitude.
C'était le premier temps de La Voix Nue de Christian Jambet, au micro de Michel Cazenave. Première diffusion le 10 février 1997 sur France Culture. Vous pouvez télécharger et réécouter cette émission à la page des nuits sur le site franceculture.fr.